Bongo, Douiman.
Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Le maire de la ville de Bujumbura a suspendu dès aujourd'hui l'extraction du sable, du moellon et du gravier dans la rivière Muha. Freddy Mbonima a effectué une descente dans ce sens. C'est un reportage que vous allez suivre dans cette édition. Et l'hôpital régional de Gitega est aujourd'hui doté d'un bâtiment de pédiatrie assez élargi au grand plaisir des mères et des enfants hospitalisés. Mais cet hôpital a toujours besoin d'un service de néonatologie ainsi que du matériel adapté aux besoins. Dans ce journal également, Mgr Jean-Louis Nahimana nous montrera la différence entre le langage des accusations et celui de la stigmatisation. Il nous dira que l'une des conséquences de ce dernier est que celui à qui il est adressé finit lui-même par se considérer comme indigne. Et à la fin de ce journal, dans la chronique éducation, un expert en psychopédagogie nous parlera de l'importance de l'inspection des enseignements. Voilà pour les grands titres.
Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel.
Bonjour. Les mères ayant des enfants hospitalisés à l'hôpital régional de Gitega poussent un ouf de soulagement après la construction d'un bâtiment de pédiatrie assez élargi. En effet, l'ancien bâtiment a été trop petit et les enfants partageaient le lit étant à deux voire trois avec un manque criant d'hygiène. Le médecin directeur de cet hôpital se réjouit aussi de cette évolution, mais il fait savoir que cet hôpital a toujours également besoin d'un service de néonatologie ainsi que du matériel adapté aux besoins. Arthur Kavavouchi.
Ce bâtiment de pédiatrie nouvellement construit a un service d'urgence, un service d'hospitalisation, un cabinet du docteur, un service de réanimation et un service de stabilisation thérapeutique et un espace de développement intégral destiné aux enfants. Certaines mamans ayant des enfants hospitalisés à ce centre poussent un ouf de soulagement car actuellement leurs enfants prennent les médicaments dans un environnement sain et comparativement à l'ancien bâtiment, ces mamans indiquent qu'il y a de l'air et de l'hygiène et que chaque enfant possède son propre lit et celui d'un garde malade, alors qu'avant, il dormait étant à deux, voire à trois. Docteur Jacques Nouimana, directeur de l'hôpital régional de Gitega, indique qu'actuellement, il y a une plus-value.
Actuellement, le service est abrité dans de nouveaux bâtiments qui sont assez vastes pour pouvoir accueillir les effectifs qui sont de plus en plus croissants des enfants qui consultent dans cet hôpital. Donc la situation dans le passé est telle que c'était très exigu. On pouvait faire dormir deux à trois enfants en même lit, mais actuellement, la capacité d'accueil du service de pédiatrie de l'hôpital régional de Gitega a pu passer de 46 lits jusqu'à 97 lits.
Ce docteur ne manque pas d'évoquer les besoins de cet hôpital de deuxième référence, notamment en service néonatal.
Les défis ne manquent pas. Je peux citer essentiellement le service de néonatologie qui existe à l'hôpital mais qui travaille dans de petits locaux avec une capacité d'accueil qui est très limitée. Ce de l'hôpital sur le terrain que l'hôpital dispose d'un service de néonatologie qui a une capacité d'accueil suffisante. On a aussi du manque en matériel, notamment les couveuses qui nous aident à prendre en charge les nouveaux-nés prématurés.
Dans la province sanitaire de Gitega, à l'exception de l'hôpital régional de Gitega, 12 centres de santé ont été réhabilités, dont le centre de santé de la zone Maranja dans la commune Makebuko, où le service de maternité a été élargi sur l'aide du ministère de la Santé avec l'appui de l'UNICEF et les travaux ont coûté 2,5 milliards de francs burundais. Depuis Gitega, Arthur Kavavouchi, Radio Isanganilo.
Merci Arthur. Et aucun parti politique ou organisation de la société civile n'a jusqu'ici présenté à la CEPI Changuzo son dossier de demande d'inscription au rôle de mandataire ou observateur au cours de l'enrôlement partiel des électeurs prévu au mois de décembre. La présidente de la commission provinciale indépendante Changuzo appelle les concernés œuvrant dans cette province à se faire enrôler à temps pour limiter les lamentations ou les bousculades à la dernière minute. Correspondance avec notre tout nouveau correspondant à Changuzo, Raymond Moudende.
Comme l'a indiqué Serge Valérie, présidente de la commission électorale en province de Tchankouzo, jusqu'à ce mercredi le 6 novembre de cette année, aucun parti politique ni l'association ne s'est pas encore présenté à la CEPI Tchankouzo pour se faire un relais comme observateur ou mandataire politique, malgré la sensibilisation qui leur a été faite. La présidente de la CEPI à Tchankouzo demande à ses associations politiques et de la société civile de se présenter le plus tôt possible au bureau de la CEPI Tchankouzo pour se faire inscrire comme observateur ou mandataire pour éviter des retards inutiles et d'autres prétextes en cas de retardateur. Ces observateurs et mandataires devront alors acheminer les dossiers complets composés de listes de personnes ne dépassant pas 15 et leurs photocopies d'identité. Pour les observateurs communaux, et devront se conformer aux répertoires communaux des centres d'inscription disponibles à la CEPI Tchankouzo. Vous saurez que ces centres d'inscription sont au nombre de 157 réparti dans toute la province de Tchankouzo. Depuis Tchankouzo, Régime Moudende pour la radio Isanganiro.
Merci Moudende. On reste dans cette région pour dire que 249 réfugiés burundais, dont 129 hommes et 120 femmes répartis dans 120 ménages, sont rapatriés ce mardi par l'OACR en provenance de la République unie de Tanzanie dans les deux camps de réfugiés d'Ndota, Mutenderi et Nyarugusu. Ces Burundais sont rentrés par la frontière Mugina et accueillis dans le site de transit de Gitara en commune de Mabanda en province de Makamba. Ils sont originaires des provinces de Ruyigi, Makamba, Muyinga et Rutana. Ils pourront être acheminés ce mercredi dans leur commune d'origine par l'OACR en collaboration avec l'administration. Un certain Casimir Ibusabusa de la colline Kivuvuma, commune Gahombo de la province Kayanza, a été tué, fusillé par des personnes non encore identifiées. C'était ce mardi soir vers 19h, alors qu'il arrivait chez lui en provenance de la ville de Kayanza où il avait passé la journée. Selon des sources sur place, la police dit avoir entamé ses enquêtes pour identifier les auteurs et déterminer les mobiles de ce meurtre. Et une personne a été sauvagement tuée par la population et quatre autres gravement blessés par une partie de la population de la colline Gisenyi, en commune Buhiga de la province Karuzi. Ces blessés ont été sauvés par la police lors de son intervention et toutes ces personnes étaient accusées de sorcellerie. Le gouverneur Kalini Mbarushimana et l'administrateur communal demandent à la population d'éviter de se faire justice et de ne plus croire à la superstition. Blaise Pascal Kararumi.
Ce mardi matin, certains des habitants de la colline Gisenyi, commune Buhiga, province Karusi, ont rassemblé 5 personnes, toutes de cette colline, qu'ils disent accusées de la sorcellerie pour se faire justice. Avec des gourdins, un certain Sekaganda a été sauvagement tué et sa femme gravement blessée, de même que 3 autres hommes. Les 4 blessés ont été sauvés par la police après avoir tiré en l'air plusieurs coups de feu lors de leur intervention avec l'administrateur de cette commune. Ces blessés ont été vite acheminés à l'hôpital du cinquantenaire de Karusi où ils reçoivent encore des soins et 2 étant en état critique comme le signalent les informations sur place. Cela s'est passé après qu'il est apparu une fille mentalement malade au chef-lieu de la province Karusi et qui vient d'être réintégrée dans la famille sur cette même colline de Gisenyi après que certains des habitants de cette colline aient affirmé qu'il s'agit d'une fille qui était morte et enterrée au mois de mai dernier. Un peu après, une femme de plus de 30 ans, aussi mentalement malade, est réapparue la semaine passée dans cette même commune de Buhiga et l'administration l'a réintégrée dans la famille après que certains des habitants lui disent qu'il s'agirait d'une femme morte et enterrée il y a plus de 2 ans. Le gouverneur de la province Karusi, Kalini Mbarushimana, et l'administrateur Efrazine Akarutimana demandent à la population d'en découdre avec le comportement de se faire justice et de ne plus croire aux croyances liées aux superstitutions. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumie pour Radio Isanganiro.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
Les avocats de la défense des 4 journalistes du groupe d'Oppressi Wachu et leur chauffeur poursuivi pour complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État ont interjeté appel ce lundi devant la cour d'appel de Nahangwa. Maître Clément Retirakiza dit que c'est pour réformer ou annuler la décision rendue par la chambre de conseil du tribunal de grande instance de maintenir en détention préventive ses reporters et leurs chauffeurs. Il espère que leurs clients seront libérés. Sachez que nos confrères sont poursuivis pour complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, je l'avais dit. Le procureur général de la République a sorti un communiqué jeudi dernier où il a indiqué que ces gens n'ont pas été appréhendés parce qu'ils sont journalistes, mais par les faits leur reprochés. Christine Kamikazi, Agnès Ndiloubousa et Jide Harerimana, Terence Mozenzi ainsi que leur chauffeur Adolphe Massavarakiza ont été appréhendés le 22 octobre dernier alors qu'ils étaient en reportage sur l'insécurité qui prévalait en commune Musigati de la province de Bubanza. Les organisations internationales, Reporters sans frontières et Human Rights Watch condamnent ces arrestations et plaident pour leur libération. Je vous l'avais dit dans les titres, le maire de la ville de Bujumbura a pris ce mercredi la mesure de suspendre les activités d'extraction du moellon, du sable et du gravier dans la rivière Muha. C'est à l'issue de la descente faite conjointement avec les différentes autorités en charge de la protection de l'environnement. Freddy Mbonima a accordé 2 jours seulement à ses extracteurs pour quitter son site. Reportage Évariste Zikobanyanga.
L'effondrement des rives de la rivière Muha met en danger les bâtiments riverains de cette rivière. Il s'agit des maisons d'habitation du quartier Kinanira 3 et ceux du grand séminaire de Bujumbura. L'abbé Nicolas, qui est préfet des études à ce grand séminaire, indique que le cri d'alarme face à cette situation date de longtemps, mais en vain. Lors de la descente du maire de la ville de Bujumbura ce mercredi, l'abbé Nicolas a de nouveau lancé cet appel.
Avec cette exploitation, je dirais abusive, la rivière a changé de cours et l'eau commence à infiltrer nos maisons et la nappe tend à changer son lit. Dans ces dernières années, nous constatons le démolissement progressif de nos maisons. Ainsi, c'était pour que l'autorité compétente puisse arrêter immédiatement les travaux.
Le numéro 1 de la capitale économique Bujumbura a constaté les dégâts causés par ce travail des extracteurs, raison pour laquelle Freddy Mbonima a pris la décision de suspendre l'extraction des matériaux de construction dans cette rivière.
Nous avons aussi constaté que le grand séminaire presque tous les bâtiments sont déjà attaqués par des fissures et ça risque d'un moment de s'écrouler. Alors nous sommes venus avec les gens de l'environnement, de l'OBPI, aussi pour les carrières, la protection civile, ainsi que les gens qui font ça, ainsi que le grand séminaire, pour trouver une solution durable afin que tout le monde soit satisfait par la décision qu'on va prendre. Unanimement, nous devons absolument fermer ce site.
Cette autorité municipale a accordé un délai de 2 jours à ses extracteurs pour pouvoir dégager les matériaux de construction sur ce site et au grand séminaire de continuer les travaux de construction de la clôture dans l'optique de la protection de l'environnement.
Merci Évariste. Les travailleurs de la Sogestal Ngozi se plaignent de passer 6 mois au service sans être payés et éprouvent des difficultés à subvenir aux besoins primaires de leur famille. Ils demandent aux responsables de cette société de tout faire pour sauver leur ménage. Deonda Isaba, chargé de la production, reconnaît le fondement des lamentations de ces travailleurs. Ils demandent au gouvernement de leur avancer de l'argent pour les payer en attendant la vente de la production caféicole de la campagne précédente. Apollinaire Muzagara.
Ces 49 travailleurs contractuels de Sogestal Ngozi indiquent qu'ils n'ont rien reçu comme salaire depuis avril de cette année. Pas seulement ces contractuels, il y en a d'autres 10 saisonniers qui revendiquent un mois d'arriéré de salaire. Tous disent qu'ils éprouvent de sérieuses difficultés à prendre en charge leur famille. Certains commerçants auprès de qui ils s'endettaient n'ont plus confiance en eux, déplorent ces employés de Sogestal Ngozi. Ils demandent par conséquent à leur employeur de tout faire pour sauver leur famille. Le chargé de la production de Sogestal Ngozi d'y être au courant de cette situation. Deondacha Isava demande que cette société soit avalisée par le gouvernement, quitte à se rembourser après l'écoulement des stocks de café de la campagne passe. Il crée même d'énormes pertes de la part de la Sogestal, du gouvernement, même des caféiculteurs. Si cette société de gestion et de lavage du café ne trouve pas sous peu de l'argent pour préparer la prochaine campagne CAF, donc aussi, Apone Muzagara, Radio Sanganil.
Parle, rassure-moi.
Et dans cette rubrique, aujourd'hui, on parle du langage de stigmatisation, un langage qui vise à diminuer l'autre ou un groupe de gens quelconque. À la différence avec le langage d'accusation, celui de la stigmatisation peut comporter des réalités malheureuses ou rabaissantes, explique Mgr Jean-Louis Nahimana, chargé de la commission justice et paix au sein de l'archidiocèse de Bujumbura. L'une des conséquences de ce langage est que celui à qui il est adressé finit lui-même par se considérer comme indigne. Oben Yonguru.
Le langage de stigmatisation est celui qui enferme une personne dans ses faiblesses. Celui qui l'utilise veut rabaisser l'autre en se trouvant des motifs qui ne sont pas justes. Monseigneur Jean-Louis Nahimana.
C'est un langage qui nivelle aussi par le bas, qui veut diminuer l'autre, qui veut qualifier l'autre comme un sous-homme, quelqu'un qui n'a plus sa dignité vraiment en entier. Ça, c'est un exemple que je peux donner. Mais plus grave dans notre pays, au niveau ethnique, il y a par exemple des communautés autochtones appelées communément abattoirs. C'est des communautés qui ont été stigmatisées, tellement discriminées qu'ils n'avaient même pas le droit de fréquenter l'école avec les enfants des familles Hutu-Tutsi.
Il indique que le langage de stigmatisation diffère en quelque peu avec le langage d'accusation.
La différence peut-être, c'est que le langage qui stigmatise souvent par de certaines réalités qui peuvent être des réalités culturelles, par exemple. Je peux prendre, par exemple, la question de la femme dans nos pays, surtout dans la culture africaine. Souvent, à la femme, on accorde, toujours une place de second rang, mais souvent, on cherche à le justifier en essayant de trouver des raisons qui ne sont pas justes.
Ce responsable de la commission justice et paix dans l'archidiocèse de Bujumbura dit que le langage de stigmatisation comporte des conséquences à qui il est adressé, dont le fait de se sentir discriminé.
Il y a d'abord ce processus de déshumanisation de l'autre, parce que quelqu'un qui est stigmatisé, souvent il est aussi déshumanisé. À côté de ça, il y a ce fossé qui se creuse entre les gens qui se croient avoir beaucoup plus de dignité que les autres. Et ça conduit aussi, quelque part, aux divisions. Parce que les gens qui sont stigmatisés, souvent, ils sont écartés. Ils sont écartés de la gestion complète de la société.
Pour éviter ce langage, ils conseillent plutôt l'adoption des langages confortant la responsabilité de l'autorité publique et de mettre en place des mécanismes solides qui permettent de protéger les intérêts des gens faibles, a-t-il précisé.
Radio Isanganiro, chronique éducation.
Dans l'exercice de son métier, l'enseignant a besoin d'être accompagné pour qu'il veille à dispenser ses leçons suivant l'orientation fixée par l'État. D'après Joseph Ndaïsawa, psychopédagogue et professeur d'université, l'inspection de l'enseignant est une tâche exécutée par un inspecteur pédagogique en général et par le directeur d'établissement ou son assistant pédagogique dans l'objectif de faire respecter la méthodologie de l'enseignement. Les détails, c'est dans cette chronique éducation signée Charles Makoto.
L'inspection de l'enseignant est une évaluation du déroulement de la leçon par un inspecteur. Elle consiste à l'observation lors de la dispense d'une leçon suivie par un entretien individuel avec l'enseignant observé. Elle se termine par l'attribution d'une note et la rédaction d'un rapport d'inspection, comme l'explique ici le psychopédagogue et professeur d'université Joseph Ndaïsawa. Il fait savoir que l'inspection de l'enseignant se fait par différents responsables scolaires dans l'objectif de veiller au respect de la démarche méthodologique et la transmission des connaissances.
Et le premier niveau, c'est le responsable scolaire. C'est le directeur d'école, c'est le préfet des études qui font régulièrement des visites de classe. Normalement, il y a un certain nombre de visites de classe qui sont prévues par an et par directeur. En principe, il y a un nombre de visites de classe que chaque enseignant doit avoir par année. Deuxième niveau, c'est bien sûr les inspecteurs qui sont envoyés par le ministère et qui sont répartis dans les DPE, dans les DCE, qui s'occupent de faire ces vérifications en second niveau. Comme ils n'ont pas de moyens, qu'ils sont peu nombreux, qu'ils ont beaucoup d'écoles, évidemment, ils interviennent moins souvent que les directeurs.
Il arrive qu'un enseignant ne prenne pas au sérieux son travail, dit le professeur Ndaïsawa. Entre autres objectifs visés par l'inspection d'un enseignant, c'est le redressement et l'évaluation des compétences, dit le psychopédagogue.
L'inspection a deux objectifs. Le premier objectif, qui est le plus important, c'est de voir comment les enseignants sont en train de mettre en œuvre le programme, les contenus, les matières, les méthodologies, etc. Pour que, au cas où il y a des erreurs qui sont commises ou des mises en application qui sont non conformes, forme, etc. On corrige les directeurs, les préfets, même les inspecteurs. Ils essaient de dire à l'enseignant ce qu'il a fait de bien, ce qu'il faut améliorer et comment il faut l'améliorer. En principe, chaque visite de classe ou chaque inspection doit être suivie d'un dialogue entre celui qui a inspecté, entre guillemets, et l'enseignant qui a été inspecté. Dans ce but-là. Deuxième niveau d'objectif, il faut quand même que l'administration scolaire sache quel est le niveau de compétence des enseignants dans plusieurs objectifs.
Si l'inspection de l'enseignant enseignant n'est pas pratiqué, le risque est de ne pas savoir les défis auxquels fait face les pratiquants et la façon dont les leçons sont dispensées, nous dit le professeur Ndaï Saba. Le choix des inspecteurs et l'importance de cette activité, c'est dans notre prochaine chronique.
Merci Charles Makoto, le rendez-vous est pris, ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Francine Ndihokugayo qui m'a aidé à réaliser ce journal, mise en onde par François Akimana. Au micro, Jean Bosco Nduimana, passez un très bon après-midi.